Alors, comme Jonah nous le rappelait la semaine dernière, si vous étiez là, vous vous en souvenez sans doute, l'année 2016 a pris fin et une nouvelle année a commencé. Et vous n'êtes peut-être pas plus convaincu aujourd'hui du sens de votre vie que vous ne l'étiez il y a un an. Le temps passe donc et vous constatez la fragilité et la brièveté de l'existence humaine et vous vous demandez peut-être si vraiment votre vie ne consiste qu'à naître, aller à l'école, faire des études, trouver un métier et un conjoint, travailler pendant une quarantaine d'années, puis prendre votre retraite et mourir. Ça, c'est si vous n'êtes pas emporté prématurément par un accident de voiture, ou par un cancer, ou par un attentat terroriste. Puisque la vie est si courte, certains se disent que le but de la vie, c'est peut-être d'essayer de se faire de se faire plaisir un maximum pendant qu'il en est encore temps. On va mourir un jour, autant faire en sorte que cette existence éphémère soit la plus agréable possible. D'autres se disent que le but de la vie, c'est d'assurer un bon avenir à ses enfants. On va donc faire des efforts et des sacrifices pour que nos enfants, à leur tour, puissent faire des efforts et des sacrifices pour que leurs enfants, à leur tour, puissent faire des efforts et des sacrifices. Bref. D'autres personnes encore espèrent laisser une trace dans l'histoire pour que, grâce à leur modeste passage sur Terre, eh bien pour que le monde puisse être un petit peu meilleur demain qu'il ne l'était hier. Avant, bien sûr, que tout cela ne soit désintégré par le soleil, qui un jour aura épuisé sa réserve d'hydrogène et qui se sera dilaté à un tel point qu'il aura absorbé la Terre et dispersé nos molécules à travers l'espace. Et vous, est-ce que vous avez une solide conviction concernant le sens de votre vie? Ou bien est-ce que vous naviguez à travers votre existence un petit peu à l'aveugle, en vous sentant dépassé peut-être par le temps qui s'écoule, et ne sachant pas au fond comment votre vie s'inscrit dans la grande histoire du monde? Que nous soyons croyants ou non-croyants d'ailleurs, je pense que cette question ne laisse personne indifférent. Bien sûr, en tant que chrétiens, si nous sommes chrétiens, nous affirmons avoir certains repères dans notre vie. Par exemple, nous disons croire en Dieu, en l'existence de Dieu. Nous croyons à la vie après la mort, nous croyons au paradis où les croyants rejoindront Dieu pour l'éternité en vertu de ce que Jésus a fait pour nous. Il en a d'ailleurs déjà été question ce soir. Mais quel est le sens de ma vie aujourd'hui? Quel est le sens de ma vie aujourd'hui? Où cours-je? Dans quelle étagère? Quel est le sens de l'histoire présente et ma place dans cette histoire? Quel est le sens de mon histoire présente, de l'histoire présente, pardon, et ma place dans cette histoire? Eh bien, soyons attentifs ce soir parce que le texte qu'on est sur le point de lire et d'étudier va nous le dire. Ça vous intéresse, non? Il s'agit tout simplement de la conclusion, donc, de l'évangile selon Matthieu, et comme toute bonne conclusion, cette conclusion va nous livrer le dénouement et même la moralité de toute l'histoire, c'est-à-dire le point décisif de l'histoire et les conséquences à tirer pour nous de tout ce qu'on a vu dans les 45 prédications précédentes qui ont concerné la personne, l'enseignement et l'œuvre de Jésus-Christ tels qu'ils nous sont présentés dans ce récit de Matthieu, donc un des apôtres de Jésus-Christ, qui nous a fait cette biographie de Jésus. Mais rassurez-vous, l'idée principale n'est pas très compliquée, c'est la suivante. Le sens de notre vie aujourd'hui doit se référer par-dessus tout au fait que Jésus-Christ est réellement ressuscité. Le sens de notre vie aujourd'hui doit se référer par-dessus tout au fait que Jésus-Christ est réellement ressuscité. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que ça implique pour nous? Eh bien, on va lire le texte et regarder tout ça en détail. L'évangile selon Matthieu, chapitre 27, là où on s'était arrêté la dernière fois, c'est-à-dire à partir du verset 57. Nous lisons la parole de Dieu. Le soir venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul immaculé et le déposa dans un tombeau neuf qui s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Marie Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble trouver Pilate et dire « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc qu'on s'assure du sépulcre jusqu'au 3e jour afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple « Il est ressuscité des morts ». Cette dernière imposture serait pire que la première. » Pilate leur dit « Vous avez une garde. Allez, assurez-vous de lui comme vous l'entendez. » Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre après avoir scellé la pierre et posté la garde. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie Madeleine et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre, et voici qu'il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, en effet, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du tombeau avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit « Soyez sans crainte, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, ils donnèrent aux soldats une assez forte somme d'argent, en ajoutant « Dites, ses disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous userons de persuasion et nous vous tirerons d'ennui. » Les soldats prirent l'argent et ils exécutèrent les instructions qui leur avaient été données. Et ce bruit s'est colporté parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Ouais, on va prier. Seigneur notre Dieu, merci beaucoup pour ta parole et l'occasion que nous avons ce soir de la lire et de l'étudier ensemble. Nous te prions tout simplement de bénir ces instants, de les conduire toi-même par ton esprit et de prendre cette parole et de l'appliquer puissamment, efficacement à notre vie, et cela pour ta gloire. Amen. Donc le sens de notre vie aujourd'hui doit se référer par-dessus tout au fait que Jésus-Christ est réellement ressuscité. Le récit qu'on vient de lire commence donc juste après que Jésus est mort sur la croix. Et il est évident que tous les gens qui lisent ce récit, que ce soit nous aujourd'hui ou les premiers lecteurs de ce récit au 1er siècle, savent déjà que Jésus est ressuscité, en tout cas qu'on prétend qu'il est ressuscité. Quand ils lisent ça, il n'y a pas de suspense. Ils savent déjà que l'auteur va nous dire « qu'il est ensuite ressuscité. Mais ce que l'auteur veut bien nous faire comprendre avant de nous parler de la résurrection de Jésus, c'est que Jésus était vraiment mort et enterré, comme on dit, mort et enterré. Dans ces quelques versets, hein, les versets 57 à 66 du chapitre 27, vous avez peut-être remarqué que l'auteur y prend soin d'énumérer toutes sortes d'éléments qui sont autant d'arguments destinés à prouver que la résurrection de Jésus ne pouvait pas être un tour de passe-passe. Il était impossible de feindre, de simuler la résurrection de Jésus. Pourquoi ? Parce que, par exemple, nous savons exactement qui a récupéré son corps, on sait exactement comment il a fait en obtenant une autorisation officielle de Ponce Pilate en personne. Et donc, les gens qui ont découvert ce récit, ce témoignage au 1er siècle, ils pouvaient même, pour certains, interroger directement les personnes concernées. Joseph d'Arimathée, on pouvait le retrouver, on pouvait aller taper à sa porte. Il n'y avait peut-être pas de bottin, des pages blanches comme aujourd'hui, mais on pouvait consulter un peu le voisinage et savoir où il habitait, et pouvoir lui parler directement. On sait, d'après Matthieu ici, qui écrit ce récit, que le corps de Jésus a été en plus mis dans un tombeau neuf, donc un tombeau qui n'avait pas de vétusté, hein, qui n'avait pas de faiblesse, qui n'était pas un peu fissuré par-ci par-là, avec des petites ouvertures par-ci par-là. Non, c'est un tombeau neuf qui n'avait pas été utilisé, carrément taillé dans le roc. Taillé dans le roc. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas d'autre issue à ce tombeau que celle devant laquelle on a en plus placé une énorme pierre équivalente à une grosse meule de moulin, qu'on ne pouvait pas déplacer comme ça avec facilité. C'est d'ailleurs ce genre de tombeau, un genre de tombeau plutôt rare. Le tombeau d'un homme riche, ce qui est aussi hautement significatif, parce que Jésus lui-même n'était pas riche, et n'étant pas riche, normalement, le corps de Jésus aurait été déposé dans une fosse commune à cette époque-là, et simplement recouvert de pierre. Ce qui, vous pouvez bien le comprendre, aurait été un argument facile pour ceux qui prétendaient que le corps de Jésus avait juste été dérobé, et ensuite caché quelque part. Il suffisait de se rendre la nuit dans la fosse commune, soulever quelques pierres et hop, on amène le corps de Jésus. Non, là, c'est pas possible, parce qu'il a été enseveli dans le tombeau d'un riche. Et on pouvait pas faire ça avec les tombeaux des riches. Taillé dans le roc, grosse pierre devant. D'accord ? En plus, Matthieu nous dit que cette tombe a été placée sous la surveillance d'une garde, c'est-à-dire vraisemblablement au moins 8 soldats armés. Et la pierre, après, a été scellée. Okay, vous voyez, il fait la liste de tous ces éléments qui sont des arguments pour nous montrer que la résurrection de Jésus, ce n'est pas quelque chose qu'on pouvait simuler. On ne pouvait pas faire semblant qu'il était ressuscité. On ne pouvait pas faire semblant, en tout cas facilement, qu'il était ressuscité. Jésus était vraiment mort et enterré. Ce n'est pas de la prestidigitation. Vous savez, lorsqu'on assiste à un tour de magie, que vous avez déjà assisté à des spectacles de magie, généralement, le magicien, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous montre son chapeau, il le renverse, il nous montre à l'intérieur, peut-être même qu'il va le passer, son chapeau à quelqu'un de l'assistance, pour que cette personne puisse certifier aux autres qu'il s'agit bien d'un chapeau parfaitement normal. Le magicien reprend son chapeau, et là, abracadabra, il en sort un lapin vivant. Incroyable ! Mais tout le monde sait qu'il y a un truc. Il y a toujours un truc, il y a toujours une technique, quelque part destinée à tromper notre perception. Peut-être un trucage dans le chapeau lui-même, ou bien peut-être que le lapin était caché dans un sac suspendu à la table, caché derrière la nappe. Ou en dernier recours, vous savez, les personnes choisies dans l'assistance pour certifier ou attester la normalité des accessoires sont peut-être elles-mêmes des complices du magicien. Vous savez, ça arrive ça. Mais ce qui se passe dans le texte ici, le texte de l'évangile selon Matthieu, c'est que Matthieu nous fait quelque chose d'un peu similaire. Il nous fait regarder le chapeau, il nous permet de le tâter, de regarder l'intérieur, de l'examiner sous toutes les coutures, mais il nous permet même de passer ce chapeau au rayon X, d'interroger le fabricant du chapeau, de le faire étudier ce chapeau par plusieurs laboratoires scientifiques indépendants, et même il nous permet après tout ça de garder le chapeau en main, de ne pas le quitter des yeux, et il en fait quand même sortir un homme vivant, à savoir Jésus-Christ. Matthieu insiste ici sur le caractère véridique de la mort de Jésus. Jésus est vraiment mort, il n'y avait pas de trucage possible. Il est mort et enterré. Et surtout pour les premiers destinataires de ce texte, c'était vérifiable, localisable. C'était, on pourrait pratiquement le dire, c'était démontrable pour les gens qui ont reçu ce témoignage au 1er siècle. L'auteur veut nous faire comprendre ici que Jésus a connu notre faiblesse, on en a déjà parlé de ça, mais qu'il a connu notre faiblesse en tant qu'êtres humains, il l'a connue jusque dans la mort. Il a été un humain comme nous, jusqu'à descendre dans le séjour des morts. Comme le rappellent d'ailleurs les paroles fameuses du credo ou du symbole des apôtres, quand on dit, avec tous les chrétiens de l'histoire, que Jésus a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le terme enfer ici désigne tout simplement l'état de mort véritable d'un être humain et non pas l'enfer au sens du jugement de Dieu, bien que Jésus ait vraiment connu ça aussi, mais c'était avant qu'il meure, c'était sur la croix, au plus fort de son agonie. Mais après sa mort, il a tout simplement été enseveli. Il a rejoint le séjour des morts, comme tout être humain rejoint le séjour des morts lorsqu'il meurt. En parlant de cette expérience de Jésus, qui s'identifie à nous, qui prend notre condition, l'apôtre Paul dit qu'il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort. C'est très important de reconnaître cette réalité. Pourquoi ? Parce que les musulmans, par exemple, sont des gens qui ont beaucoup d'admiration pour Jésus, beaucoup de respect pour le personnage de Jésus, mais ils affirment, et cela en s'appuyant sur le Coran, que Jésus n'est pas mort sur la croix. Soit parce que ce serait quelqu'un d'autre qui serait mort à sa place, soit parce qu'il n'est pas vraiment mort sur la croix et qu'il aurait, en fait, tout simplement repris des forces après avoir été descendu de la croix et placé dans le tombeau. Donc il n'était pas vraiment mort, il était juste amoché. Mais l'auteur ici nous dit tout le contraire. Jésus est vraiment mort. Et d'ailleurs, conformément à la prédiction du prophète Ésaïe, 700 ans plus tôt, on a bien mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche. Il était mort et enterré. Et ce point, encore une fois, est très important parce que si Jésus n'était pas vraiment mort, eh bien, il ne serait donc pas vraiment ressuscité non plus. C'est ce qu'affirment d'ailleurs les musulmans. Jésus est simplement monté au ciel sans jamais faire l'expérience de la mort. Dieu l'a enlevé et l'a récupéré au ciel directement. Et si Matthieu insiste autant sur le caractère véridique de la mort de Jésus, c'est justement pour mettre en relief la suite, et c'est là qu'on va commencer à voir un peu plus clairement le rapport avec le sens de notre vie aujourd'hui. Dans la suite du texte, en effet, après avoir insisté sur le caractère véritable et véridique de la mort de Jésus, maintenant Matthieu va insister sur le caractère triomphal de sa résurrection. En fait, l'auteur présente la résurrection de Jésus ici comme un véritable retournement de situation. On avait d'ailleurs déjà vu, vous vous en souvenez peut-être, juste après la mort de Jésus dans le texte, déjà des signes annonciateurs de ce retournement de situation que l'on découvre plus pleinement maintenant dans le texte. Vous vous souvenez qu'au moment de la mort de Jésus, l'auteur nous avait dit que le voile du temple s'était déchiré de haut en bas, il nous a parlé d'un tremblement de terre, il nous a parlé de tombeaux qui se sont ouverts et de croyants qui sont revenus à la vie. Et puis, il nous a raconté cette incroyable profession de foi du centenier romain qui a assisté à tout ça et qui s'est quelque part exclamé « Eh ben, celui-ci est véritablement le Fils de Dieu !» Donc déjà, il y avait des signes annonciateurs de ce retournement de situation, mais maintenant, ce retournement de situation, il est complètement entériné dans le texte. Jésus était abandonné, rappelez-vous, il a même fait l'expérience de l'abandon de Dieu sur la croix, mais maintenant, on découvre qu'il y a un ange du Seigneur qui descend même du ciel pour rouler la pierre de son tombeau. Jésus était en proie à la faiblesse de la chair, maintenant, il a vaincu la mort, il est ressuscité. Jésus faisait l'objet des moqueries des soldats, maintenant, ce sont les gardes qui tremblent de peur. Jésus pliait sous l'opprobre, maintenant il fait l'objet de l'adoration de Marie et de Marie-Madeleine, qui elle-même, juste avant, était triste et apeurée, mais maintenant elle court avec une grande joie pour annoncer cette nouvelle aux disciples. Vous voyez le retournement de situation. Finalement, le héros de l'histoire est sorti victorieux de cette situation fâcheuse, de cette aventure. Vous savez, dans les romans ou dans les films, on a souvent ce motif-là, ce motif du héros qui, à un moment donné, souvent vers la fin de l'histoire d'ailleurs, doit quitter ses amis, quitter ses proches, sa famille, pour aller se confronter tout seul, en héros, à l'ultime épreuve de l'histoire. Hein ? Faites-moi confiance, je vais remporter ce combat. Et vous verrez que tout ce qu'on a vécu ensemble, tout ce que je vous ai promis, tout ce qu'on a prévu de réaliser, rien de tout ça n'aura été en vain. Et le lecteur ou le spectateur est tenu en haleine, et le héros s'en va au devant de cet ennemi juré, de ce grand adversaire ou de ce danger suprême. Et l'issue de cette confrontation, et tout le monde le sait à ce moment-là, que l'issue de cette confrontation va tout déterminer dans l'histoire. Mais lorsque le héros part, qu'il disparaît à l'horizon, les gens qui restent n'ont en fait que peu d'espoir qu'il réussisse, tellement le défi semble impossible à relever. Et voilà, quelque temps plus tard, les amis du héros qui sont en train de désespérer, qui sont en proie à la tristesse et à la peur, eh ben ils voient une silhouette apparaître au loin, dans la brume. Et au moment où le réalisateur envoie la musique triomphale, eh bien, tous ces gens, ils reconnaissent soudain leur héros qui revient contre toute attente, il revient fatigué, blessé, mais victorieux. Il a réussi à vaincre l'ennemi. Et maintenant, tout est différent, tout a changé, parce que l'issue de cette confrontation, c'est ça qui allait tout déterminer. Et on a tous vu des films avec ce genre de motif, n'est-ce pas ? Et en fait, je dirais que dans le texte ici, on a la source originale de ce type de motif dans tous les films et tous les romans qui ont suivi. Jésus émerge victorieux de sa confrontation avec le mal et la mort, qui sont en fait les ennemis ultimes des hommes. Et c'est vrai que l'issue de cette confrontation devait tout déterminer, et elle a tout déterminé. Rien ne sera plus jamais comme avant, parce que Jésus est sorti victorieux de cette confrontation, de ce combat. Le fait que Jésus est ressuscité, c'est ce qui valide ou qui accrédite en quelque sorte et de manière suprême et solennelle tout ce que Jésus représente, c'est-à-dire tout son enseignement et toute son œuvre. Tout ça est validé, accrédité de manière solennelle par le fait qu'il est ressuscité. Jésus est venu de la part de Dieu, pour nous faire connaître Dieu, pour s'identifier à notre faiblesse. Ces choses-là, on les a vues déjà dans le récit de Matthieu. Hein ? Il est venu pour porter nos péchés sur la croix, il est venu pour subir à notre place le jugement de Dieu contre nos péchés, pour prendre sur lui notre condition jusque dans la mort, tout ça pour nous réconcilier éternellement avec Dieu et pour rétablir le royaume de Dieu sur la terre. Et tout ça, c'était la mission qu'on attendait du Messie. Et que des millions de personnes avant la naissance de Jésus attendaient du Messie. Et parce que Jésus est ressuscité, on peut dire que la mission a été réussie. Et que Dieu a validé de manière formelle et spectaculaire, il a validé toute l'œuvre de Jésus. Le Messie. C'est un peu ce que dit l'apôtre Paul dans Romains 1, verset 4, quand il dit « Jésus-Christ a été déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. » Jésus a été déclaré fils de Dieu avec puissance, sous-entendu par Dieu, par sa résurrection d'entre les morts. Dieu le Père valide, approuve de manière solennelle, formelle, tout ce que représente Jésus, tout son enseignement et toute son œuvre. La mission du Messie a été réussie. En En nous racontant donc la résurrection de Jésus, Matthieu ici nous rapporte en fait le point décisif de son histoire, de tout son récit, qu'il a commencé 28 chapitres plus tôt. Il nous a fait comprendre que Jésus était venu comme Messie pour satisfaire toute l'attente de l'Ancien Testament, c'est-à-dire cette attente millénaire d'une réponse dans l'histoire aux conséquences de la chute de l'homme et de sa séparation d'avec Dieu. On en a parlé à plusieurs reprises dans le cadre de ces prédications, de ces messages sur l'Évangile selon Matthieu, que Dieu avait fait des promesses depuis très 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 longtemps, en fait déjà depuis l'époque d'Adam et Ève, les premiers humains. Il a dit qu'un jour, une descendance, la descendance de la femme, arriverait dans l'histoire pour écraser la tête du serpent, c'est-à-dire pour vaincre de manière définitive le mal et la mort. Et cette attente est développée au fil des pages de l'Ancien Testament et au fil de l'histoire du peuple d'Israël, et en fait à travers Israël, au fil de l'histoire de toute l'humanité. Et on attend que ce Messie arrive et accomplisse ce que Dieu avait promis. On attend cette réponse historique aux conséquences de la chute de l'homme et de sa séparation d'avec Dieu. Et on peut le constater nous-mêmes encore aujourd'hui, le monde est devenu abîmé, il est devenu dysfonctionnel à cause de cette séparation d'avec Dieu. Les êtres humains eux-mêmes ont perdu le sens de leur vocation originelle qui était de glorifier Dieu en cultivant sa création. Et Matthieu nous dit ici que Jésus est venu pour réparer tout ça en quelque sorte. C'était sa mission en tant que Messie. C'est le sens d'ailleurs de l'expression « le royaume des cieux » que Jésus est venu établir sur la terre. Cette expression que Matthieu emploie à de nombreuses reprises dans son évangile, ça désigne cette réparation cosmique, si j'ose dire, que le Messie était censé opérer sur la terre en faveur des croyants. On attend ça. On attend la venue du royaume des cieux. Et Jésus est venu pour accomplir cette mission. Et la preuve que Jésus a parfaitement atteint ses objectifs, la preuve que Jésus a parfaitement satisfait les plans du Père, c'est qu'il est ressuscité. C'est qu'il est ressuscité. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui ? Eh bien, c'est précisément la question que Matthieu veut soulever en conclusion de son récit, en fait. Et pour conclure, ce qu'il fait, à partir du verset 11, là, du chapitre 28, ce qu'il fait, c'est qu'il dresse un contraste entre deux réponses possibles à la résurrection de Jésus. C'est simple. Soit on ne croit pas que Jésus est ressuscité. Et dans ce cas, si Jésus n'est pas ressuscité, tout le Nouveau Testament s'effondre, à commencer par l'Évangile selon Matthieu. Tout ce que Matthieu a écrit jusqu'ici, vous pouvez le mettre à la poubelle, hein. Ça ne veut plus rien dire si Jésus n'est pas ressuscité. Ça veut dire que Jésus n'est pas le Messie s'il n'est pas ressuscité, qu'il n'a rien fait pour nous et qu'il ne peut rien faire pour nous. Seulement, pour croire que Jésus n'est pas ressuscité, il va falloir expliquer où il est passé, Jésus, alors qu'il était vraiment mort et enterré. Son corps, en tout cas, comme cela a été établi dans la première partie du texte qu'on vient de lire. Et ce déni de la résurrection de Jésus, on le voit justement chez les responsables religieux de cette époque, qui sont mentionnés dans le texte, et c'est ce qui les conduit même, parce qu'ils ne veulent pas croire, c'est ce qui les conduit même à une forme de mauvaise foi et de dissimulation, de mensonge, même de malhonnêteté, on pourrait le dire. Puisqu'ils inventent une histoire et ils disent aux gardes, voilà ce que vous direz. De l'autre côté, on peut croire que Jésus est vraiment ressuscité. C'est l'autre option. S'il y a un Dieu, on est d'accord qu'il est tout-puissant, hein ? Et si Dieu est tout-puissant, par définition, il peut ressusciter Jésus s'il le souhaite. En fait, il peut ressusciter n'importe qui s'il le souhaite. Rien n'est impossible à Dieu. Ce n'est pas contraire à la raison de croire que Jésus était vraiment mort et enterré, et qu'il est aussi vraiment ressuscité. La question n'est pas « est-ce que c'est possible ?» puisque si Dieu existe, c'est possible. La question est plutôt « est-ce que c'est arrivé ?» Est-ce que Dieu l'a fait ? Et si vous en doutez aujourd'hui, je vous invite tout simplement à vous renseigner. Ça peut sembler un peu bête, mais je vous invite tout simplement à vous renseigner. Il existe des livres qui traitent ce sujet de manière très méticuleuse. je pourrais vous en conseiller quelques-uns si vous le souhaitez après le culte. Je pense à un livre en particulier qui est intitulé Jésus, la parole est à la défense, d'un auteur qui s'appelle Monsieur Strobel, S-T-R-O-B-E-L. Vous le trouverez sur Amazon, je pense. Et je vous invite tout simplement à réfléchir à cette question avec un esprit ouvert, à être lucide par rapport à vos présupposés peut-être rationalistes, à les mettre de côté un petit instant, à ouvrir l'esprit et à vous renseigner. Étudiez la question. Considérez le témoignage des Écritures saintes. Considérez le témoignage de l'histoire. Considérez le témoignage des chrétiens, de votre entourage. Et si Jésus est réellement ressuscité, voici ce que ça veut dire. Écoutez bien. Il n'y a pas beaucoup de phrases dans ma prédication qui sont vraiment importantes, mais celle-ci, elle est importante. Alors écoutez bien. Voici ce que ça veut dire si Jésus est réellement ressuscité. C'est que Jésus a surmonté toutes les puissances de ce monde et qu'il règne de manière suprême sur tout l'univers et qu'il compte déployer ce règne dans l'histoire de façon manifeste à travers les croyants. Jésus a surmonté toutes les puissances de ce monde, il règne de manière suprême sur tout l'univers et il compte déployer ce règne dans l'histoire de façon manifeste à travers les croyants. Et c'est ce que Jésus dit lui-même très clairement dans les trois derniers versets de cet évangile selon Matthieu. C'est la conclusion de tout ce récit, versets 18 à 20. Et ici, Jésus affirme clairement l'établissement de son règne en tant que Messie. Il affirme avoir réalisé tout ce qu'il fallait pour que le monde soit réconcilié avec Dieu le Créateur. Et maintenant, la nouvelle de sa victoire, la bonne nouvelle de sa victoire, l'évangile donc de sa victoire doit être proclamé partout, même, dit-il, auprès des nations. Le terme « nation » dans le contexte de l'évangéliste Matthieu, ça désigne les peuples non-juifs. Donc cette victoire doit être annoncée partout, même auprès des nations qui sont appelées à rejoindre le peuple du Messie en lui prêtant allégeance. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, dit Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce qu'on voit ici, c'est que l'œuvre de Jésus entraîne des conséquences dans l'histoire pour le monde entier. Je sais que cette illustration a souvent été utilisée, mais honnêtement, j'ai du mal à en trouver une meilleure. C'est comme lorsque les Alliés ont débarqué en Normandie le 6 juin 1944 et qu'ils ont remporté cette fameuse bataille décisive pour le contrôle des côtes, là, en Normandie. Le cours de l'histoire a changé à ce moment-là. L'issue de la Deuxième Guerre mondiale a été déterminée à ce moment-là. La libération de l'Europe, en quelque sorte, a été gagnée à ce moment-là, à un grand prix d'ailleurs. Les Alliés ont gagné la guerre, les méchants ont perdu, la situation a été retournée à ce moment-là, mais le déploiement de cette réalité a pris du temps, et d'ailleurs ça n'a pas toujours été évident ou agréable. Mais après le 6 juin 1944, après le débarquement en Normandie, plus personne ne combattait de la même manière sur le champ de bataille. La peur, ce jour-là, a changé de camp, si j'ose dire. Et vous auriez vécu à cette époque-là, vous en auriez naturellement, vous aussi, tiré des conséquences pratiques pour votre vie, d'ailleurs, que vous soyez un gentil ou un méchant dans cette histoire. Vous en auriez tiré des conséquences pratiques pour votre vie. De la même façon, l'œuvre de Jésus entraîne des conséquences dans l'histoire pour le monde entier. Et notre façon de voir le monde, aujourd'hui, et a fortiori notre façon de voir notre propre vie, dépend complètement de notre réponse à l'œuvre de Jésus. D'abord, est-ce que j'adore Jésus, comme le font Marie et Marie dans ce texte ? Et comme le font les disciples de Jésus, verset 17. C'est-à-dire, est-ce que je fais confiance à Jésus? Est-ce que j'ai foi en lui? Est-ce que je plie le genou devant lui qui est véritablement le Messie victorieux et bienveillant? Ensuite, est-ce que j'ai conscience de son projet à ce Messie qui règne et qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre? Est-ce que j'ai conscience aujourd'hui de son projet qui consiste à manifester son règne dans le monde, à travers ma vie, à travers mon témoignage, à travers mon service? Et si j'en ai conscience, est-ce que j'accepte d'être appelé à ça? Est-ce que je suis d'accord avec Jésus? Ce qui ne veut pas dire qu'on doit tous devenir des pasteurs, des évangélistes à plein temps, des missionnaires à l'étranger ou des profs de théologie. Non, ça ne veut pas dire ça. Ce que ça veut dire, c'est qu'en tant que croyants, nous sommes appelés à changer le monde. Ah, pardon, ça fait un peu cliché, mais c'est vrai. C'est ce que dit Jésus ici. En tant que croyants, en tant que disciples du Messie, nous sommes appelés à changer le monde, mais en commençant par, eh bien, nous-mêmes déjà, là où nous sommes, en vivant selon les préceptes du Messie. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, dit-il au verset 20. Lorsque nous exerçons notre métier, quel qu'il soit, lorsque nous dépensons notre temps et notre argent, lorsque nous voyageons, lorsque nous discutons avec des gens, lorsque nous faisons plein d'autres choses, nous sommes déjà en train de déployer le règne de Jésus lorsque nous obéissons à ses enseignements. Lorsque nous faisons tout cela, donc, pour la gloire de Dieu et au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de changer le monde lorsque nous élevons nos enfants selon les préceptes du Messie. Et lorsque nous témoignons autour de nous de ce que Jésus a accompli par sa mort et sa résurrection, lorsque nous témoignons auprès de nos voisins, ou de nos collègues, ou de nos amis, ou de membres de notre famille. Nous sommes à ce moment-là déjà en train de déployer le règne du Messie, et donc de changer le monde. Et Jésus, le Messie, qui règne donc de façon suprême au-dessus de tout l'univers, il a dit qu'il était avec nous tous les jours, et jusqu'à la fin du monde, dans la poursuite de notre vocation. Il est avec nous, celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il nous manifeste sa présence et son soutien par son Esprit Saint qu'il a envoyé dans notre cœur si nous sommes croyants, mais aussi par sa parole que nous pouvons lire tous les jours, et par l'amitié et la solidarité de nos frères et sœurs dans la foi, par la communion de l'Église. Jésus nous manifeste sa présence par la prière, par la Sainte Cène. Alors, est-ce que vous avez une solide conviction concernant le sens de votre vie? Croyant ou non croyant, est-ce que vous naviguez à travers votre existence un peu à l'aveugle, en vous sentant dépassé par le temps qui s'écoule et ne sachant pas au fond comment votre vie s'inscrit dans la grande histoire du monde? J'espère que vous avez pu voir dans ce texte quelle était la réponse de ce passage et pourquoi je disais en introduction que le sens de notre vie aujourd'hui doit se référer par-dessus tout au fait que Jésus est réellement ressuscité. Parce que c'est ça qui change tout. Jésus est vraiment mort. Il a vraiment été enseveli et il est vraiment ressuscité en ayant vaincu le mal et la mort. Et il a vraiment été établi roi sur tout l'univers et il compte vraiment déployer son règne dans le monde entier jusqu'à ce qu'il revienne vraiment un jour dans l'avenir mettre un terme à l'histoire et purger le monde de tout mal et détruire la mort une fois pour toutes. Et parce que tout ça est vrai, qu'est-ce qui pourrait être plus important à considérer pour connaître le sens de ma vie aujourd'hui? Le temps passe, et nous pouvons tous constater la fragilité et la brièveté de l'existence humaine, mais ma vie a quand même un sens en référence au plan de Dieu pour le monde. Il est là, le sens de ma vie. J'en suis sûr parce que Dieu l'a dit. Mais j'en suis sûr aussi parce que Jésus, dans l'histoire, est réellement ressuscité. Et c'est ce que Jonas nous rappelait la semaine dernière. J'ai une vocation et je peux savoir où je vais et dans quelle étagère. Comme le dit aussi l'apôtre Paul, puisque Jésus est réellement ressuscité, 1 Corinthiens 15, verset 58. Mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Amen. On va prier. Merci notre Dieu pour ta parole. Merci d'avoir ressuscité Jésus, notre Sauveur. Merci de l'avoir établi roi sur tout l'univers. Merci parce que nous pouvons faire partie de ce royaume, comme Gilles nous le rappelait tout à l'heure, gratuitement. Pas sur la base de nos performances ou de nos mérites, mais uniquement sur la base de ce que Jésus a accompli en notre faveur. Et nous te demandons simplement, Seigneur, de nous aider à mieux considérer toutes ces choses pour que nous puissions mieux trouver notre place dans tes plans pour le monde. Et que nous puissions ainsi poursuivre notre vie en ayant la conviction de notre vocation qui consiste à te servir et à participer au déploiement du règne du Messie dans le monde entier. Amen.